des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, une émission spéciale puisque nous sommes avec Jean Echenoz, prix Médicis pour son deuxième roman Cherokee en 1983, prix Goncourt 1999 pour Je m'en vais, l'auteur du livre Phare de la rentrée, Phare qui rime avec Fulmar, le héros de son nouveau roman Vie de Gérard Fulmar qui paraît aux éditions de Minuit, comme d'habitude. Nous sommes avec Jean Echenoz et mieux, nous sommes chez Jean Echenoz. Bonjour Jean Echenoz.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous décrire la pièce où nous sommes ?
La pièce où nous sommes, c'est une pièce assez grande qui sert à la fois de lieu d'évolution, de repas, un peu de travail. Il y a des livres un peu partout.
Domestique chez Montaigne, par exemple, je vois.
Ah oui, c'est un livre que j'ai sorti ce matin, ouais. Un livre de Michel Chailloux, que j'aimais beaucoup.
Comme ça, vous l'avez choisi pour faire quelque chose de particulier
Oui, parce que j'avais envie de faire un travail, enfin, je projetais de faire quelque chose un peu sur ce thème, enfin, en tout cas, sur ce qu'évoque le titre, et je suis allé chercher ce livre dans la bibliothèque, parce que je voulais le relire ouais. Un peu.
Et là, il y a on ne va pas décrire toute la pièce, mais il y a une sorte de porte ou d'œuvre avec une sorte de petit personnage de bébé au milieu, de collage boisé, je dirais, une sorte de collage avec des
ouais, fragments de bois. C'est une sculpture de Louis Pons, ouais. Qui est en effet qui est construite sur la base d'une vieille fenêtre avec un agrégat d'objets divers. Voilà, c'est. Il y a une autre œuvre de Louis Pons d'ailleurs qui est une encre qui est là.
Je disais, ce livre domestique chez Montaigne qui est là, il y a aussi un Racine, la biographie de Racine. J'ai lu que vous vouliez écrire un péplum, que vous vous renseigniez sur le péplum, qu'il y avait une vieille envie de péplum.
Oui, mais ça c'est un projet que je traîne depuis très longtemps et qui en fait n'est pas un projet, je crois, qui est une espèce de vague rêverie, mais qui me permet de lire des choses sur l'Antiquité latine, comme ça, en me disant, je vais finir par trouver le déclic en cherchant des éléments un peu partout, aussi bien dans des ouvrages historiques que dans des textes anciens, je sais pas, c'est Juvénal, Martial. Bon, mais à mon avis, ça ne se fera jamais. C'est-à-dire, j'aimerais tellement que ça se fasse que pour ne pas être déçu, j'ai décidé de... Mais je continue à chercher des choses. J'avais trouvé un livre sur les techniques d'espionnage dans la Rome antique, comme ça. Mais oui, ça peut être intéressant. Ouais, ouais.
Alors, donc,
et c'est pas ce que je vais en faire.
Ouais. Oui, mais donc,
je trouve pas l'entrée.
Mais ça deviendra peut-être. Enfin, vous pouvez un jour, demain peut-être, trouver l'entrée.
Demain, j'en suis pas sûr, mais dans quelques mois peut-être. Ouais.
Comment on sait qu'on trouve l'entrée dans un livre ?
D'abord, je crois qu'il n'y a pas une seule entrée. Il y a comme ça quelques thèmes qu'on a envie d'utiliser, dont on sent qu'ils pourraient être un peu productifs. Ce n'est pas un seul thème en général. C'est deux, trois choses qui m'intriguent ou sur lesquelles j'ai envie d'apprendre des choses et qui me paraissent un peu des propulseurs comme ça d'imagination, de fiction. Ben, quand ces éléments-là commencent à s'articuler et que quelque chose se produit un peu de l'ordre du mécanique, voilà, peut-être que c'est comme ça que ça démarre.
Mais on le sait comment, ça envoie une impulsion au cerveau, on se dit là ça y est, le contact c'est comme un moteur, je sais que vous aimez beaucoup les voitures, en tout cas dans vos livres.
Je ne connais rien de voiture. Aux
marques,
non, oui, aux marques, c'est surtout les noms. Hein. Non, quand ça commence à paraître un petit peu organique, un peu vivant, quand ça commence à devenir un peu en substance intéressant, enfin, quand ça commence à m'intéresser, là, ça peut se mettre en route. Mais il peut se passer un temps fou à tourner autour de phrases comme ça, puis ça prend pas forme. Il n'y a pas de relief.
Ouais. La phrase est plate, quoi.
Voilà. Ouais. La phrase et la situation, enfin, puisque tout ça va ensemble.
Il faut être excité, en fait, par ses propres phrases. Enfin, excité, je veux dire, cérébralement. On sent que ça marche, qu'on est dedans.
Oui, il faut surtout avoir le sentiment qu'il y a quelques chances pour qu'on s'ennuie pas trop, quoi,
ouais.
Pour que ça devienne, oui, en effet, stimulant, un peu excitant, en effet. Ouais. Ouais.
C'est important, on va parler de Vie de Gérard Fulmar, que j'ai trouvé extrêmement drôle, je suis pas le seul, mais c'est important de s'amuser aussi. Est-ce que vous amusez quand vous écrivez? Souvent, les écrivains, quand ils parlent de leur œuvre, alors il y a tout, hein, il y a ceux qui sont plongés dans des abîmes de perplexité, et puis il y a ceux qui arrive quand même à trouver ça ludique. Est-ce que c'est votre cas ?
La perplexité fait partie du tableau aussi, mais quand quelque chose commence à devenir vivant. Alors, je pourrais pas dire, même si j'essaie de mettre au point des dispositifs, des effets de drôlerie comme ça à certains moments de mes récits, je ne me suis jamais surpris en train de rire. Parce que je crois que c'est aussi parce que c'est quand on essaie de mettre au point un effet, un effet de drôlerie, de distance, de comique, etc. C'est quelque chose d'assez minutieux. Donc ça requiert une attention qui exclut quand même... Il peut m'arriver de sourire si je trouve une association pas mal. Mais bon, et puis
Je disais amusé, hein. C'est vrai qu'on vous imagine pas éclater de rire
écrivant,
mais malheureusement, rire intérieur, un sourire.
Rire intérieur, ça peut se produire, mais il est très très mal élevé de rire de ses propres plaisanteries.
Exactement. Alors une dernière question, est-ce que c'est là que vous écrivez dans cette pièce, donc pleine de livres, pleine d'œuvres, de tables?
C'est dans une autre pièce qui est également pleine de livres et où il n'y a qu'une table.
Il n'y a qu'une table. C'est ascétique, c'est totalement ascétique ou...
Pas spécialement. Pas spécialement. C'est pas ascétique, c'est pas discipliné, c'est assez libre.
Est-ce que on va garder le secret de cet endroit où vous écrivez, mais est-ce qu'un écrivain doit avoir un lieu, en tout cas pour vous, avec ses meubles, sa vue ou son absence de vue, hein. Certains disent qu'il faut absolument aucune fenêtre. Ou est-ce que vous pouvez écrire partout?
Je crois que je peux reprendre mon activité matinale, puisqu'elle est généralement matinale, n'importe où. Il n'y a pas de règle là-dessus, simplement. Comme c'est une activité quotidienne, mais qui n'est pas mue par une rigueur spéciale, simplement c'est comme ça. Donc ça peut se faire, ça peut se faire n'importe où. Je préfère que ce soit dans ce que je n'arrive pas à appeler mon bureau, que d'une pièce ou une chaise, une table, voilà quoi.
Le scriptorium, puisque vous parliez d'antiquité ou de en latin médiéval, on dirait ça. Alors merci en tout cas de nous recevoir chez vous pour ce temps des écrivains. Je mentionnais votre nouveau roman « Vie » de Gérard Fulmard, qui est absolument délicieux, drôle, surprenant. Alors que sur le papier, il n'avait pas grand-chose à faire valoir, ce Gérard Fulmard. Eh ben oui, Fulmard, c'est quand même pas le héros de l'année, a priori. Écoutons-le. « Je ressemble à n'importe qui, en moins bien ». Taille au-dessous de la moyenne et poids au-dessus, physionomie sans grâce, études bornées à un brevet, vie sociale et revenus proches de rien, famille réduite à plus personne, je dispose de fort peu d'atouts, peu d'avantages, ni de moyens. Et c'est même, Jean Echenoz, plutôt quelqu'un avec qui on n'a pas, a priori comme ça, envie de passer la soirée. C'est un ancien steward, il s'est reconverti en entrepreneur un peu bidon, qui met la charrue avant les bœufs, ou plutôt la plaque avant les clients, la plaque du cabinet Fulmard Assistance. Et assistance en quoi? Eh bien, il ne sait pas trop Fulmard, même si l'appellation lui semble saillante. Les clients ne se pressent pas d'ailleurs dans son 2,5 pièces, jusqu'au moment où une grosse affaire lui tombe dessus, tout comme est tombé du ciel dans les premières pages, un morceau de satellite soviétique sur un centre commercial d'Auteuil où Fulmard, domicilié rue Erlanger, dans le 16e arrondissement donc, faisait ses courses. Enfin, heureusement pour lui et pour les lectrices et les lecteurs du roman, pas le jour où est tombé le fragment de satellite. Gérard Fulmard est donc vivant, mais pas glorieux. Je me suis demandé, Jean Echenoz, ce que penserait un lecteur ou une lectrice qui ne vous aurait jamais lu et qui entrerait dans cette vie de Gérard Fulmard. Il se dirait peut-être « Attends, c'est lui que je dois suivre comme héros, ce loser de surcroît naïf, ou peut-être d'ailleurs à cause de cela ?» Il se dirait peut-être cela, cette lectrice ou ce lecteur, avant de se laisser embarquer par la verve pince sans rire de ce roman, au fond picaresque, aventureux, qui va nous plonger dans les eaux troubles de la politique avec meurtre, enveloppe en liquide, lutte d'influence au sein du parti et jolie fille à la nage impeccable et au grand pied, aussi grand que votre grand style, Jean Echenoz, fait de niveaux de langue qui s'affrontent, s'entrechoquent, de phrases qui se déplient comme des origamis, à la précision d'horlogerie, au burlesque savant, à l'espièglerie gamine, se jouant de tous les genres délicieusement. C'est vrai qu'on est bien chez vous, Jean Echenoz, et on s'étonne d'être aussi bien parce qu'au début, franchement, comme je disais, c'était pas gagné avec ce Fulmard. Et c'est par là que j'aimerais qu'on commence. Qu'est-ce qui fait que vous choisissiez cet homme sans qualité, ce Fulmard, au nom d'oiseaux marins grégaires, nichant en grande colonie sur des falaises rocheuses, et qui a tendance à vomir sur son prédateur lorsqu'il se sent en danger. Je me suis renseigné sur l'oiseau.
Oui, je vois.
Fulmar, pas vraiment un aigle. Alors, est-ce qu'il s'agit, quand vous vous lancez dans un livre, de vous soumettre à un saut d'obstacle, de vous lancer un défi, en prenant un personnage a priori terne, comme ce Fulmar, à moins que les flamboyants vous ennuient?
Il est vrai que ce n'est pas ce qu'on appelle un héros très positif, oui. Mmh. Mais j'avais envie de faire parler un personnage à la première personne, ce que j'avais pas fait dans les livres précédents, parce que c'était une espèce d'aventure comme ça, de formelle, qui m'intéressait. Mais je préférais que ce soit plutôt quelqu'un qui, s'exprimant, fait part aussi de ses nombreux handicaps, le fait qu'il a très peu d'atouts dans la vie, et que c'est une espèce d'innocent, de raté un peu innocent. Je trouvais que c'était plus intéressant de faire parler un personnage comme ça qu'un aventurier flamboyant, comme vous dites.
Mais pourquoi on se dit, tiens, je vais l'y faire, il est terne, mais je vais le plonger dans une sorte de chaudron magique, picaresque, où on va voir ce qui va advenir de lui.
Que ce que je souhaitais, c'est que ce soit donc un personnage d'innocent qui soit propulsé dans un fond plus ou moins dramatique, comme ça. J'avais l'idée comme d'un fond un peu tragique, avec des histoires d'amour impossible, de pouvoir, de rivalité, etc. Qui est un fond un peu noble, comme ça.
Racinien, puisqu'on parlait de Racine,
oui,
tout à l'heure.
J'étais parti un peu d'un schéma de tragédie de Racine. Et sur ce fond noble, même si dans le livre, les personnages ne sont pas tous forcément très valeureux, sur ce fond un peu grandiose, là, ben, je voulais balancer un innocent, ouais. Simplement un type qui débarque et qui est pris dans des conflits dont il n'a pas tellement conscience qu'il dépasse.
Alors tout à l'heure, vous disiez, quand on parlait de la façon dont on entre dans un roman, qu'il y a deux, trois éléments qui doivent un peu marcher ensemble, un peu comme des corps chimiques, quoi, des éléments, la chimie doit prendre. Est-ce que sur ce livre-là, Fulmar, ça serait quoi les éléments qui ont permis au roman de se cristalliser? Donc il y a ce Fulmar dont on a parlé.
Oui, il y a ce fond tragique sur lequel j'ai pas mal travaillé. Et puis il y avait un lieu qui était un lieu que j'ai pris de façon un peu arbitraire, qui est une rue du 16e arrondissement de Paris, qui est la rue Erlanger, que je ne connaissais pas. Alors, je sais plus très bien, parce que j'ai commencé à y aller il y a 5 ans, je crois. Ouais. Enfin, j'y allais. Je crois que c'est dans le souvenir de quelques faits divers qui s'y sont déroulés.
Mike Brandt.
Il y a l'histoire de Mike Brandt, il y a l'histoire de ce Japonais. Ensuite, pendant que j'écrivais le livre, il y a eu un troisième fait divers beaucoup plus tragique. L'incendie volontaire, oui.
Ça, vous ne l'avez pas intégré au fond cette. Alors je rappelle la défenestration de Mike Brandt, la mort de cette jeune Hollandaise Renée et eux par Issei Sagawa, cet étudiant cannibale, et puis effectivement cet incendie terrible. Vous ne l'avez pas incorporé à la fiction
Non, parce que l'incendie s'est produit. Le livre était trop avancé et non parce que le dernier fait divers était tellement dramatique que je trouvais qu'il aurait été un peu indécent de l'intégrer dans cette histoire qui est comme trop légère pour recevoir des choses pareilles, mais qui m'a confirmé tragiquement que c'est une rue qui produit des faits divers. Quoi. Ça, je trouvais ça très très étonnant.
Mais cette rue, vous êtes tombé dessus comment on choisit parce que je me souviens d'une phrase de vous sur le parc Monceau qui était très belle, où vous disiez que ça ressemble à un plateau de cinéma et que ça vous donne des idées. On sait que vous marchez aussi beaucoup, mais la rue Erlanger, est-ce que finalement le fait de l'avoir choisie provient du fait qu'elle a été le théâtre de certains événements tragiques ou c'est en vous promenant là-bas que vous avez dit « tiens, je vais la mettre dans cette vie de Fulmar »
Non, d'autant moins plutôt que quand j'ai commencé à fréquenter cette rue, d'abord oui, je crois que c'était à cause de ces faits divers, ça m'intriguait, puis je savais absolument pas ce que j'allais en faire, et l'histoire de Fulmar et de tout ce qui l'entoure était pas du tout, c'était pas du tout prévu, c'était pas organisé. Non, je voulais voir cette rue avec l'idée que j'allais faire quelque chose avec cet endroit-là. Et je ne la connaissais pas, en fait. Et j'étais évidemment extrêmement déçu parce que c'est une rue d'une banalité sans mélange. Mais j'y ai passé beaucoup de temps, j'ai photographié les immeubles, j'ai parlé avec des gens, j'ai cherché dans les archives l'histoire de cette rue, même depuis son origine. J'ai passé beaucoup de temps à tourner autour de ce lieu, sans savoir pendant un an ou deux ce que j'allais vraiment faire.
Enfin, ouais. Elle a failli changer de nom, hein, d'ailleurs.
Elle a failli changer de nom sous l'occupation, oui.
Est-ce que vous avez besoin de savoir exactement dans quelle topographie et dans quel décor vos personnages vont évoluer ?
Oui, même si je ne m'en sers pas dans le roman. Je sais que pour un roman précédent, j'avais besoin, et je sais pas, c'est un peu une, je sais pas pourquoi j'ai ce genre d'idée-là, mais j'avais besoin de savoir où habitait un des personnages, c'était un roman qui s'est envoyé spécial. Oui. Il y avait un personnage qui habitait du côté du parc Monceau, précisément. Oui. Et il fallait absolument que je trouve l'immeuble où il habitait. Et j'ai passé pas mal de temps dans ce quartier, jusqu'à trouver l'immeuble idéal qui devait être exposé au sud, qui devait être un immeuble haussmannien, comme il y a dans ce quartier. Mais je photographie les trucs, mais après je regarde jamais les photos, donc ça sert.
C'est-à-dire que vous avez
besoin... Mais en fait, je me suis pas servi du tout de cet immeuble, mais j'avais besoin...
Pour déclencher ?
Oui, d'avoir une idée physique du lieu, même si je n'avais pas envie de le décrire.
Mais vous cherchez un décor.
Il me fallait l'immeuble réel qui correspondait à celui que j'imaginais à peu près.
Avec certaines caractéristiques.
Avec certaines caractéristiques, un immeuble haussmannien, orienté au sud, j'y tenais particulièrement.
Du parc Monceau.
Dans une rue assez dégagée du côté du parc Monceau.
D'accord, assez drôle. Alors Modiano, qui aimait comme vous beaucoup les lieux de Paris, dans un pédigré, rend hommage à Queneau avec ses mots. J'ai lu que les moments où Queneau avait été le plus heureux, c'était quand il se promenait l'après-midi parce qu'il devait écrire des articles sur Paris pour l'intransigeant. Comme Queneau, je n'étais vraiment moi-même que lorsque je me retrouvais dans les rues, à la recherche des chiens d'Anières. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous êtes heureux quand vous marchez en essayant de trouver des idées ou des lieux pour vos personnages ?
Ah ben, c'est une de mes activités favorites, oui, parce que j'ai l'impression que la géographie parisienne, par exemple, mais pas seulement, c'est un lieu où on peut dérober des choses, que ce soit, je sais pas, un graffiti, une réplique entendue comme ça, ou un élément de décor... Ce genre d'éléments très disparates qui peuvent contribuer à fabriquer une scène ou une histoire.
Est-ce que c'est juste pour trouver des idées ou est-ce que c'est pour arrimer la fiction, l'imagination, même si vous avez fait aussi des livres qui étaient plus dans le réel, plus, pour le coup, arrimer un personnage réel. Je pense à Ravel, par exemple, ou d'en courir avec Zatopek. Est-ce que c'est pour arrimer votre imaginaire à quelque chose de réel pour pas que ça parte dans le décor, totalement ? Ou est-ce que c'est juste pour trouver des idées ?
En vérité, c'est sans démarche particulière. C'est parce que, je sais pas, il me semble que dans la déambulation comme ça, il y a une espèce de... à la fois de porosité, mais en même temps, les lieux produisent des histoires, et pas seulement des vraies histoires. Les lieux peuvent déclencher des histoires. Donc, enfin, je passe pas ma vie non plus à rechercher de la fiction dans la réalité. Ouais. Et puis, c'est une dimension de plaisir aussi, parce que moi, comme je suis plutôt sensible à l'architecture, tout ça, donc c'est une partie de ma vie, mais ça depuis très longtemps.
Alors justement, j'aimerais bien qu'on vous entende lire. C'est vrai que dès que vous décrivez un paysage urbain, très architecturé, c'est absolument superbe. J'en ai choisi un, page 93-94, où justement, Terraille, votre personnage... Le président du parti politique dont il est question dans Vie de Gérard Fulmar se lève et va se poster justement depuis les hauteurs de la tour où il habite et regarde le paysage.
À ses pieds, au premier plan, verticalement délimité par le ruban gris fer du pont de Bir Hakeim et celui bistre et blanc du pont de Grenelle, horizontalement par les cordons de quais liserés d'immeubles beiges à moulures et corniches, construction galonnée de feuillus roussâtres, le foulard brun de la Seine s'écoule immobilement, divisé en deux que passemente le fil gris de l'île aux cygnes. Là-dessus, la tour Nelson et ses voisines couchent de longs rectangles d'ombre. Au-delà de ce cadre, la perspective urbaine a l'air d'un grand lit, plus ou moins fait, sur lequel s'accumule un fouillis d'étoffes diverses, châles de pierre et plaids en béton, écharpes d'étages et froncis de balcon, jeté de terrasses sur cabayeux froissés de draps clairs, patchwork de couvertures pâles à carreaux de zinc, de plomb, d'ardoise. Et plus loin encore, au bord de l'horizon, la ville prend un tour portuaire sur une mer floue de banlieues étales, bornée par le donjon de l'hôtel Hyatt Regency qui lui tiendrait lieu de phare.
Merci Jean Echenoz, c'était un extrait de Vie de Gérard Fulmar, donc qui paraît aux éditions de Minuit. On continue avec vous, on va explorer un peu ce nouveau roman. On écoute d'abord votre premier choix musical, vous avez choisi un impromptu de Schubert, interprété par Alfred Brendel.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
J'ai choisi Jean Echenoz, un impromptu de Schubert, interprété par Alfred Brendel. Pourquoi ce choix musical ?
Parce que ça fait partie des choses qui sont dans ma vie un peu quotidienne, parce que c'est d'une gravité, d'une grâce extrême.
Ouais. La musique joue un rôle, alors en tout cas dans votre œuvre, hein, il est souvent question de jazz, il est question de musique. Est-ce que quand vous écrivez, il vous faut un peu de musique ?
Non, certainement pas.
Ouais.
Non,
ce serait dangereux.
Oh, non, ça serait dérangeant, tout simplement. Non, ça. Il fut un temps où je mettais des radios parler, mais très très bas.
Ah oui, parler.
Oui.
Et ça vous perturbait pas dans la...
Non, parce que je n'entendais pas ce qui se disait, mais j'avais un fond de voix comme ça qui. Peut-être que c'était rassurant, je sais plus, mais je ne fais plus du tout ça.
Rassurant, pourquoi ? Parce que vous.
Je sais pas. Comme
ça vous angoisse d'écrire ?
Non, l'idée qu'il y ait quelqu'un derrière, ah, oui. Comme ça.
Et vous piquiez des petites phrases aussi que vous entendiez parfois à la volée ?
Là, non. Ouais. Par contre, il m'arrive fréquemment. Ben, ça, c'est aussi l'activité un peu de vol. Ouais. Quand j'entends dans une conversation une phrase que je trouve intéressante, utilisable, oui, j'hésite pas à la. En général, j'informe son locuteur que je la lui prends.
Oui, donc vous êtes un voleur extrêmement
scrupuleux.
Ah, oui. Ouais. Oui, c'est pire peut-être. En plus, non seulement vous volez, mais voilà, vous allez la retrouver quelque part. Mais ça sera chez moi. Alors, Jordi, quelques mots sur cette Vie de Gérard Fulmar, donc votre 16e livre. Je disais tout à l'heure, délicieux, caressant, drôle, qui commence par la chute d'un morceau de satellite soviétique sur un centre commercial dans le 16e arrondissement. Déjà, le reste de communisme dans les beaux quartiers, c'est assez savoureux. Et puis, on fait connaissance très rapidement, en fait, avec le personnage de Gérard Fulmar. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, celui qui meurt pendant... En fait, il y a un boulon, en fait, qui tombe à la suite de ce fragment... Enfin, à cause de ce fragment de satellite soviétique. Et ce boulon tue le propriétaire à qui Gérard Fulmar doit payer son loyer. Et donc, il se dit, bon, bah voilà, la mort va me permettre de gagner du temps, puisque Gérard Fulmar n'est pas très argenté, il est plutôt désargenté. Et alors, Gérard Fulmar, c'est un ex-steward en surpoids qui veut monter son agence de détective, fantasmant sur celle de Duluc, hein, le fameux qu'on voit dans tous les films, hein, avec cette enseigne lumineuse. Sauf que rue Erlanger, dans son 2,5 pièces, les clients ne sont pas légion. Jusqu'au jour où on lui propose de résoudre une histoire de disparition féminine. Il se retrouve dans un appartement avec un cadavre de femme, il s'en échappe et puis il va se retrouver dans les mains d'un parti politique douteux, la FPI, Fédération Populaire Indépendante, dont le président a perdu sa compagne. Je n'en dis pas plus. Et voici Fulmar aux premières loges de la politique et de ses affaires tordues, aux premières loges aussi du spectacle que donne Louise Tourneur, la fille de la disparue, donc la fille de la compagne du président du parti.
Et cette fille, elle crawl impeccablement. Il y a des descriptions de nage voilà, qui donnent envie de se jeter tout de suite dans l'eau. En plus, elle nage nue dans la piscine privée parisienne de sa maison ou du côté des célèbres en Indonésie. Telle est donc la vie de Gérard Fulmar que nous allons suivre sur quelques 200 pages, rythmées par diverses péripéties. Il est beau ce titre, Jean Echenoz, mais il est singulier parce que « Vie de Gérard Fulmar », ça sonne un peu comme « Vie de Jésus ». C'est plutôt réservé aux saints ou aux grands héros, les vies parallèles de Plutarque, puisqu'on parlait de Juvénal tout à l'heure. Vous vouliez lui offrir un cadre plus noble, en fait, que sa vie.
Oui, mais il n'y a pas que des vies de saints, il y a aussi les vies de Marcel Schwob, de John Aubrey. Les vies minuscules de Pierre Michon. Mais il est vrai que dans mon enfance, ça remonte très très loin, dans mon enfance, parmi les lectures qui me fascinaient, il y avait la légende dorée de Jacques de Voragine, qui est une série de vies de saints et martyrs. Et c'était quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Et la forme littéraire de la vie, c'est quelque chose que je trouve assez beau. Et ça m'intéressait en effet d'appliquer ce genre noble, souvent noble. À un personnage démuni, disons.
Le secret de l'écriture, c'est ça, c'est ce décalage, chercher le décalage. Que ce soit le décalage de mots, le décalage de registres, du familier à l'archinoble... C'est ça qui vous fait jubiler ?
C'est de trouver un peu la distance nécessaire qui peut varier par rapport à l'histoire qu'on raconte. C'est varier, faire des écarts qui sont variables d'un point de vue à un autre. Mais c'est aussi, j'aime bien l'idée, ça se présente comme ça, l'idée de mélanger des formes rhétoriques, des discours qui peuvent être un peu jouer avec la préciosité ou avec la trivialité et les faire s'entrechoquer. Je trouve que ça peut donner... pour moi, c'est des choses qui m'intéressent.
Alors, je dis un mot aussi de votre phrase. On parlait tout à l'heure, on a écouté de la musique plutôt classique, mais on a l'impression qu'elle jazz plutôt votre phrase. D'ailleurs, vous vous amusez, c'est peut-être totalement instinctif, mais vous utilisez un certain nombre de formules rhétoriques. Vous en parliez à l'instant, les euguemes, les anacolutes, les hyperbates. Je cite un joli euguem que j'ai trouvé dans « Je m'en vais ». En 1999, donc votre Goncourt, un vaste complexe commercial et hôtelier chinois dresse son architecture mandchoue au bord du fleuve et de la faillite. C'est important de prendre des libertés avec la syntaxe, de s'en amuser. Ça fait partie aussi du jeu, de jouer justement avec les libertés qu'elle propose, de casser un peu l'ordre quoi établi.
Oui, mais de respecter aussi cet ordre et de jouer avec tout ce qu'il permet, de tenter quelquefois des espèces de mouvements un peu marginaux, mais avec une allégeance, un grand respect de la forme.
Vous adorez Flaubert, souvent Bouvard et Pécuchet, vous le citez.
Oui, c'est une grande lecture et une grande relecture régulière, oui, en effet. Oui.
Est-ce que vous passez vos phrases au gueuloir, comme il le faisait ?
Certainement pas, non. Ouais. Non, parce que d'abord, je me sentirais absolument ridicule de proférer tout seul dans ma pièce des choses que je viens de faire. Ouais. Et parce que j'ai le sentiment que c'est pas utile. Enfin, moi, il me semble que la lecture silencieuse de ce qu'on est en train de faire permet d'entendre assez bien si ça sonne ou pas. J'ai pas du tout besoin de cette épreuve-là qui me paraîtrait un peu...
Oui, mais lui, il pensait qu'en oralisant, on sentait ce qu'on sent pas forcément avec une lecture silencieuse intérieure.
Je crois qu'on entend. Ouais. Oui, oui. Ouais. Et puis, quand on est lecteur pas de ce qu'on fabrique, mais de lecteur tout court, on entend les rythmes, on n'a pas besoin de proférer.
Je parlais de l'humour de vos phrases et ce travail aussi de décalage qui permet justement de s'amuser avec la langue et de créer des effets tout à fait savoureux, même si vous avez rappelé Jean Echenoz, mais de toute façon, on vous imagine pas rire aux éclats en écrivant. Donc je cite ces scènes de nage que j'adore, par exemple celle-ci, page 89, donc Louise Tourneur est dans sa piscine. Au lieu de plonger directement comme je m'y attendais, elle est descendue par l'échelle, sa pointure 42 suivie de ses chevilles, ses jambes, ses cuisses mais avec réticence, paraissant affronter une eau plus froide que prévu. Puis, en immergeant brusquement sa taille, Louise Tourneur a poussé un bref soupir craintif, surpris, ravi, comme saisi par un membre inattendu, plutôt que par une piscine. Ce qui m'a encore plus troublé que ne l'avait fait Maître Lopez le matin même. avant de se lancer dans une longueur de crawl parfait. J'en ai une autre. Des 20 milliers d'objets qui se promènent ainsi nous surplombant en orbe, on est en droit d'imaginer que les trois quarts, ceux qui évoluent à moins de 1000 km d'altitude, c'est à partir à propos des satellites, retomberont un de ces jours n'importe où, pourquoi pas, à tes pieds. Et ça, ça m'a fait penser à la phrase de Coluche, vous vous souvenez, sur le présentateur star du journal télévisé de TF1, Roger Gicquel. Vous vous souvenez, l'homme de la phrase « La France a peur », vous vous souvenez de ça? Coluche avait dit « Quand il y a un avion qui s'écrase dans le monde, c'est toujours sur les pompes à Roger Gicquel ». C'est vrai que cette annonce au lecteur que fait le narrateur, il y a deux narrateurs hein, d'ailleurs dans la vie de Gérard Fulmar, il y a le narrateur omniscient, et puis il y a Gérard Fulmar qui raconte aussi à la première personne, mais qui s'adresse au lecteur, à tes pieds.
Bon, là c'est une espèce d'accélération.
Ouais. Bon, oui, mais à tes pieds, pas à vos pieds, à tes pieds.
Ouais, mais à tes pieds, ça fait, ça, il me semblait que ça créait tout de suite une espèce de accélération ou rapprochement comme ça, une espèce d'intimité incongrue avec un lecteur éventuel. Donc voilà. Et puis l'autre passage que vous avez cité, c'était une scène avec une dame qui est dans une piscine et c'est, j'avais observé ça il y a 10 ans, 15 ans et j'avais trouvé ça tellement beau cette femme surprise par l'eau trop fraîche sans doute que je me dis il faudra un jour que j'utilise cette scène là. C'était il y a très longtemps.
Et la déplacer vers le sexuel en fait, hein, c'est ça, ouais.
Oui, encore que oui, la scène dont j'avais été témoin, oui, ça avait un côté très brutalement érotique comme ça qui était troublant c'est des choses curieusement qu'on met en réserve quelquefois, il y a des trucs qu'on va chercher. L'histoire du satellite qui tombe comme ça, c'est quelque chose dont je voulais m'occuper aussi depuis très longtemps. J'avais des coupures de presse là-dessus.
En fait, vous documentez énormément, en fait, sur plein de choses, en fait. Vous êtes encyclopédique, en fait.
Encyclopédique, non, mais quand je commence à m'intéresser à un sujet, oui, j'ai un peu tendance à exagérer dans les recherches. Et puis, quelquefois, au hasard de lecture, je peux tomber sur des choses dont je me dis que je pourrais les utiliser.
Et si on revient justement au lecteur, je cite un autre passage. « Nous voilà propres, pense Pannon, en voyant les épaules de son chef se hausser par soubresauts convulsifs au rythme de ses pleurs, les larmes ruisseler de ses yeux en même temps que de son nez dégouline une humeur visqueuse et ses liquides affluent dans sa moustache, où il se mêle, et c'est bien triste à voir, et le président Terrail n'a pas plus l'air d'un président que vous et moi. » Là encore, il y avait « à tes pieds, vous et moi ». Alors là, c'est le narrateur omniscient, c'est plus Fulmar qui parle, mais il y a toujours l'adresse au lecteur. Vous attendez quoi de lui, justement, dans ce jeu que vous lui proposez? C'est pour vérifier qu'il est bien là? Il faut le faire sursauter
Non, ça fait partie des choses... Moi, j'aime bien que dans un récit comme ça, il y a des témoins qui prennent la parole. Ça peut être le narrateur lui-même, ou moi comme narrateur. Enfin, ça peut être n'importe qui, quelqu'un qui passe. Mais l'idée de faire entrer comme ça, de façon très ponctuelle comme ça, un lecteur hypothétique, parce qu'on ne sait jamais s'il y en aura un en vérité. Ben voilà, ça fait un peu partie de ce jeu-là.
Alors parfois, on parlait justement du côté furieusement érotique de la baignade tout à l'heure, toujours dans l'adresse au lecteur. C'est à la fin du livre, je ne vais rien dévoiler. Mais à nouveau, voilà, voici qu'on va vous faire le coup de l'exotisme. Ne manquerait plus maintenant qu'une scène de sexe pour remplir tous les quotas. Mais alors, une vraie scène de sexe, hein, bien sûr, savamment menée, moins déprimante et ratée que celle de Franck Terrail à Pigalle. Nous verrons cela plus tard. Gardons-la en réserve si l'occasion se présente. C'est la fin d'un chapitre et le début de l'autre. Une telle scène, d'ailleurs, aurait pu survenir dès maintenant, car tout s'y prête dans la suite Honeymoon. Voilà, là, ils sont. C'est vrai qu'ils sont partis sur un autre continent. Donc, il y en a du sexe, mais il n'y en a pas. En fait, il y en a sans qu'il y en ait. Ça reste toujours amusant à décrire ou à faire semblant de décrire justement le sexe pour un romancier dans une époque d'images où les images se chargent souvent abondamment de le faire.
Ce n'est pas une expérience considérable, mais je crois que les scènes érotiques font partie des choses les plus difficiles à écrire. Oui. Oui, oui. En essayant de faire quelque chose de neuf dans ce champ-là, c'est pas très commode.
Mais vous, ça vous dirait de
le
faire ?
Je crois que je l'ai fait, mais je sais plus, il me semble. Je crois que j'avais tenté de le faire, je sais plus dans quel livre.
Et puis il y a la politique hein, dans ce livre. Alors vous nous racontez donc les coulisses hein, de ce FA, de cette FPI, hein, Fédération Populaire Indépendante. C'est quelque chose aussi la politique sur laquelle vous vous êtes documenté pour cette vie de Gérard Fulmard aussi, les enveloppes, les coups tordus, les luttes de pouvoir, les disparitions, les conseillers qui apparaissent, l'ambition, les jeunes loups. C'est aussi quelque chose qui a fait l'objet d'une documentation.
Sur ce sujet-là, pas du tout. Alors que sur les autres thèmes, j'ai cherché des documents. Mais sur ces histoires politiques, non. Ça s'imposait un petit peu parce que je voulais qu'il y ait des dimensions de pouvoir, de rivalité, de lutte intestine, comme ça. Bon. Mais là, non, ça, c'était une invention pure, sans me fonder sur des références particulières.
Est-ce que pour vous, un écrivain doit être au cœur du monde, justement? Là, il est question de politique, ou au contraire, regarder le monde comme en surplomb, avec distance, en fait?
Je ne sais pas ce que doit être ou ce que doit faire un écrivain, ça, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que moi, je suis très, très... perméable à tout ce qui se passe. Enfin, je sais pas, je lis la presse, j'écoute la radio, je suis dans mon époque.
Mais là, il y a un modèle, par exemple, de ce parti politique?
Non. Il y avait vraiment, au départ, il n'y avait pas du tout de modèle. Non, d'ailleurs, heureusement, parce que c'est pas un parti extraordinaire, quoi. De toute façon, c'est un minuscule parti qui est beaucoup plus occupé de sa survie que d'un désir politique particulier. Non, mais je sais pas ce que c'est. Si, comme vous dites, l'écrivain a une
il y a des gens,
doit faire quelque chose.
Qui pense qu'il y a une mission de l'écrivain, d'être une sorte de vigie. Hugo, par exemple, le disait. Zola le disait. Il y a des auteurs contemporains qui
non rendre compte de ce qu'on perçoit de l'état du monde. Mais ça, c'est une chose même tout à fait naturelle et évidente. Enfin, moi, même si on travaille dans la fiction.
Je vous dis ça parce que c'est
vrai. Les éléments avec lesquels on travaille.
Parce qu'il y a deux lignes, enfin il y en a plusieurs, mais il y a la ligne purement imaginaire, comme un peu ce Fulmard. Et puis il y a eu Ravel, il y a eu Zatopek, il y a eu aussi des romans beaucoup plus ancrés sur la vie de quelqu'un. Donc en fait, on sent une tension en fait permanente entre ces deux options. Il y en a plus de deux, mais d'être dans l'imaginaire pur ou arrimé à un sujet existant sur le. Qu'il s'agit de faire rentrer quand même dans un roman.
Oui, mais j'avais fait une série de 3-4 livres comme ça, qui étaient en effet plus liés à des personnages réels ou à des situations réelles, enfin sur la Première Guerre mondiale, par exemple. Mais c'était simplement parce que ça correspondait à une période où je doutais un peu de la fiction, j'étais un peu fatigué d'une série de choses strictement de l'ordre de l'imaginaire. Et j'avais envie d'essayer de passer du temps et d'écrire sur des sujets réels. Ce qui est sur des personnages, je dirais, des sujets.
Qu'est-ce qui vous fatiguait dans cette fiction purement imaginaire, qui vous lassait ou...
Je ne sais plus, ça me fatiguait tout simplement.
C'était trop gratuit? Non, parce que je dis ça, on est dans une époque, vraiment, c'est vrai, où le réel, vraiment, beaucoup de romans, beaucoup d'écrivains, même des lecteurs, exigent un peu le saut du réel. On adore les témoignages. Parfois présentés comme des romans. On ne sait plus d'ailleurs définir le roman, si tant est qu'il faille le définir. C'est pour ça que je vous pose la question. Le réel, vraiment.
Non, mais de toute façon, dans tous les romans, je m'en sers en permanence du réel. Mais je ne sais pas, il y a eu un moment où je trouvais que ça pouvait être intéressant d'aller chercher du côté, pas du tout de la biographie, mais de la vie réelle de tel ou tel personnage. Et de 3 personnages exerçant les activités les plus opposées qui soient, les plus diverses. C'était d'ailleurs extrêmement compliqué au départ, parce que ça posait des problèmes tout à fait inattendus par rapport à ceux que pose le roman, la fiction. Quoi. Là, c'était une affaire très, très, très neuve et assez compliquée, parce qu'il fallait être précisément près de la vie d'un personnage et avec la liberté de romancier que je me donne et que je m'autorise.
Oui, mais on ne peut pas faire tomber un satellite soviétique.
Non, là, dans ces histoires-là, il n'était pas question de satellite soviétique. Il fallait être au plus près de quelqu'un, avec un rapport presque affectueux à ce personnage. Et donc, je ne sais pas, l'espèce de liberté que permet une forme d'amitié. Ouais.
Et qu'est-ce que vous préférez, en fait? Ce respect obligé au fait de l'histoire, par exemple sur Ravel ou Zatopek, ou 14, hein, quand vous faites, par exemple, quand vous écrivez sur les tranchées, ou l'imagination totalement débridée, faire tomber un satellite, commencer un roman par un bout de satellite soviétique qui tombe sur un centre commercial à Auteuil.
Bah, d'abord, c'est pas une imagination débridée, ça se produit, oui. Des fragments de satellites qui tombent. Heureusement, oui. Ça se passe rarement dans des régions habitées.
Rarement à Auteuil, mais...
Oui. Non, ce qui m'intéresse, c'est d'aller là où je suis pas allé. Mmh. En fait, c'est tout oui, simple. C'est d'essayer de trouver un territoire, une zone, une activité de laquelle je me, desquelles je me suis jamais occupé. Et de, ouais, c'est une espèce d'aventure. Sinon, ça serait prendre le risque de la répétition, quoi. Et là, c'est-à-dire de l'ennui. Enfin, de s'ennuyer soi-même, c'est quand même horrible si on s'ennuie en écrivant.
Oui, oui, non, mais tout à fait. D'autant que vous, il y a ce satellite soviétique. Bon, ça a été écrit, donc je peux le dire sans déflorer. Je vais rester très, très prudent. Mais aussi, il y a un requin qui apparaît. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des événements, effectivement, qui, ça se produit dans la réalité. Mais sur 200 pages, il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on pourrait dire, et c'est ce qui fait aussi le charme fou de ce livre, un saugrenu dont on a envie, en fait. Quelque chose qui n'était pas prévu et qui arrive comme ça, mais les probabilités étant... Il y a des probabilités dans la vie. Bah là, dans ces 200 pages de Fulma, il y a un bout de satellite qui tombe, il y a une attaque de requin, et puis il y a d'autres choses aussi. C'est-à-dire que là, on a, vous avez resserré... les éléments imprévus sur 200 pages. C'est-à-dire qu'en en termes de probabilité, les mathématiques sont défiées dans ce livre.
Oui, mais il faut un peu scander les actions. Il faut qu'il, faut qu'il se passe des choses. Quand même.
Dit-il. On écoute votre deuxième choix musical, Jean Echenoz. Vous avez choisi La fille de Londres de Pierre Macorlan, interprétée par Germaine Montero.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Est venu dans ma chambre, il a rangé la souricière, il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris entre mes bras blancs, il était chaud comme un enfant. Je l'ai bercé bien tendrement et je lui chantais doucement. Dors mon rat, mon flic, dors mon vieux Bobby. Siffle pas sur les quais endormis. Quand je tiendrai la main de mon chéri. Un chinois est sorti de l'ombre. Un chinois a regardé Londres. Sa casquette était de marine, ornée d'une encre coralline. Devant la porte de Charlie, à peine Finch lui a souri. Dans le silence de la nuit, en chuchotant, je lui ai dit: je voudrais, je ne sais trop quoi. Je voudrais ne plus entendre ma voix. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi.
La fille de Londres de Pierre Macorlan, interprétée par Germaine Montero, c'est le choix de Jean Echenoz. Nous passons cette heure avec lui dans Le Temps des Écrivains. Il publie Vie de Gérard Fulmar aux éditions de Minuit. Pourquoi ce choix musical ?
Parce que ça a été une des premières chansons que j'ai entendues dans mon enfance. Et que c'était une espèce de choc. Le texte est très étrange, il est très violent. Et j'étais très très petit. Et c'est un surgissement comme ça d'une romanesque un peu angoissant, je veux dire, et j'avais envie de le réentendre.
Qu'est-ce qui vous angoissait dans les paroles, ça, qu'est-ce qu'on...
Alors les paroles, oui, les paroles, surtout à la fin, il y a un très beau passage sur un couteau sans spécialité, je trouvais ça magnifique.
Alors je redis un mot de ce Gérard Fulmar, La vie de Gérard Fulmar, on disait tout à l'heure. C'est vrai que normalement ces titres correspondent soit aux vies minuscules, soit aux vies de saints. Alors Gérard Fulmar est-il un saint ? En tout cas, c'est un innocent, un ancien steward. Quand commence le livre, un fragment de satellite tombe sur un centre commercial à Auteuil. C'est le centre commercial que fréquentait Gérard Fulmar. Il n'était pas là, heureusement, quand le fragment de satellite est tombé. Mais en tout cas, ce satellite qui tombe tue accidentellement le propriétaire de l'appartement qu'il loue. Et il va avoir du répit dans son loyer. Et il a besoin de répit parce qu'il veut changer de vie. Hein. Tu dois changer ta vie, disait l'autre. Gérard Fulmar veut changer de vie. Il veut devenir une sorte d'entrepreneur. On ne sait pas très bien si c'est un détective. En tout cas, il veut ouvrir un cabinet d'assistance. Et en fait, en ouvrant ce cabinet, il va se retrouver, lui, à la vie si terne, plongé dans les méandres, dans les rouages d'un parti politique, de la vie d'un parti politique, la Fédération Populaire Indépendante, dont vous nous livrez les coulisses, Jean Echenoz, et les coulisses et les personnages comme Monsieur Terrail, le président, Madame Tourneur, sa compagne, Louise Tourneur, admirable crawleuse, nageuse, formidable, et puis toute une galaxie de personnages un peu tordus dont vous nous racontez aussi la vie dans cette langue inimitable qui fait la marque Jean Echenoz, rupture de construction, choc de niveau de langage, et puis humour, et puis délice, et puis sens aussi du saugrenu, de la péripétie, vous nous disiez tout à l'heure. Je voudrais vous demander pourquoi vous êtes si maniaque sur les marques de voitures ou le matériel high-tech. Je cite quelques exemples quand même. Alors sur les voitures, par exemple la Bugatti Veyron Supersport, on en trouve une, page 154 encore. Alors il y a le Roadster, le Honda Roadster, page 154, on trouve aussi le moteur W12 de Bentley Continental GT Speed. C'est vrai que les noms de voitures prennent une importance considérable. C'est pas la première fois.
Là, c'était des indications de voitures extrêmement chères, ouais. Parce que ça, c'est toujours un rappel du lieu où on se trouve, qui est une espèce de cité privée habitée par des gens extrêmement riches et coupés un peu du monde. Donc, les références de véhicules qui arrivent dans ce moment-là sont des voitures extrêmement luxueuses.
Et tous, dans ce parti politique, ils conduisent quand même des voitures. Ils sont toujours dans des fauteuils baquets.
Pas toujours. Non, pas toujours. Non. Ce qui m'intéressait dans les références de voitures, par exemple, comme dans les références de vêtements,
c'est des montres. Il y a des montres.
Ou de montres, par exemple. C'est parce que ce sont des marqueurs sociaux. Mm-hmm. Je veux dire, ça fait partie de la description des personnages, enfin de leur situation sociale. Et puis quelquefois, dans ces noms propres de marques de voitures ou de vêtements ou de peu importe, quelquefois ça sonne bien dans la phrase. C'est-à-dire que ça tombe bien de façon sonore, et en même temps, c'est une indication, ça fait partie de la description des personnages.
Oui, exactement, ça les marque, hein, en fait. Autre chose qui les marque, ou d'ailleurs je ne sais pas si ça les marque, c'est sur le choix aussi des noms que vous donnez à vos personnages. J'en cite quelques-uns. Pierre-Yves Lamotte Marlot, Apollodore et Hermosthène, ce sont deux frères Nguyen, Jean-Loup Mozzi Gonacci, Jackie Bloch-Bénard. Je me souviens d'un autre mot de Flaubert, puisqu'on en parlait tout à l'heure, de Flaubert qui déclarait à Athènes au début des années 1860 qu'il ne pouvait pas encore écrire son grand roman parce qu'il n'avait pas trouvé les noms de ses personnages. Est-ce que pour vous aussi, les personnages, comme l'immeuble dont vous parliez tout à l'heure du côté du parc Monceau, est-ce que les personnages ne prennent vie qu'une fois nommés ?
En tout cas, ça fait partie de leurs attributs physiques. Et parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment où on donne un nom à un personnage, ça donne déjà une espèce d'éclairage sur son profil. Mais au fil des versions successives, puisque je travaille un peu comme ça, un personnage peut changer de nom parce que selon l'évolution qu'il prendra, son nom ne va plus correspondre à ce que je veux qu'il soit. Et donc, oui, ça fait un peu partie de la description physique, sonore, quoi, des personnages.
Oui, ça permet d'imaginer des choses. Eratosthène Nguyen, a priori, enfin, à moins qu'il ait été élevé par un prof de grec.
Oui, ça s'est pas indiqué dans le roman, mais j'avais trouvé une biographie personnelle pour moi que j'ai pas perdu. Je vais pas perdre de temps à raconter ça dans le livre. Mais je me dis, bon, des enfants réfugiés vietnamiens qui ont été, élevés par un couple d'hellénistes. Donc, ils ont des prénoms grecs.
Voilà. Vous avez commencé par le cinéma, par un scénario pour lequel vous étiez d'ailleurs venu voir Manchette. Un scénario écrit avec un ami, Robert Pansard-Besson, qui est devenu un film, Le Rose et le Blanc, sorti en 1980 avec Raymond Pellegrin, Michael Lonsdale, Bulle Ogier, Valérie Lagrange, qui a eu un prix, le prix Georges Sadoul. Vous êtes passé au mot, mais est-ce que ce ne sont pas finalement
toujours les mécanismes liés à l'image, la grammaire liée au cinéma que votre écriture porte, des notions de cadre, de focale. D'ailleurs, dans la vie de Gérard Fulmar, il y a le passage Honeymoon dont je parlais tout à l'heure, ce n'en serait où vous parlez des cadres, hein, du cadre, de l'ambiance, mais vous utilisez un registre du cinéma. Ce n'en serait que plus efficace avant de se livrer à des plans rapprochés, de gros plans pour mieux suivre l'enchaînement des postures, harmonisé par le ressac de la mer de Flores en contrebas, le va-et-vient de ces vagues procurait un excellent fond sonore, symétrique et synchrone à l'action. Là, soudain, vous passez presque à la mise en scène de film ou à la note d'intention pour un film.
Bah oui, parce que j'essaie de faire des choses un peu visuelles. Donc, en faisant appel à ces références-là, de cadrage, de montage, de champ contre champ, etc. Bah, c'est une espèce de rappel, enfin de rappel pour moi aussi, que j'ai l'impression d'avoir appris des choses au cinéma qui pouvaient me servir dans le champ de la romanesque.
Oui, sauf que là, vous utilisez même les mots du cinéma. C'est-à-dire que vous pourriez faire du visuel sans rappeler l'idée de champ, de plan, de focal.
Oui, là, ça renforce un peu. Ouais, ça renforce un peu. Comme j'essaie de déclencher des images, bon, là, c'est un cran supplémentaire en précisant techniquement ce qu'est l'image dans une transposition cinématographique
éventuelle.
Mais refaire
du cinéma, ça vous tenterait pas ?
Oh, certainement pas.
Non ?
Non, non, non.
Parce que ?
Mais parce que il faut travailler avec des gens, c'est insupportable. Non, non, oui. Je préfère travailler seul.
Seul. En 1983, je voudrais pour terminer citer justement Manchette. Quand il avait lu Cherokee, il vous avait écrit une lettre. En fait, elle est pleine d'admiration, mais elle est pleine aussi de critiques. Je vais la lire. À côté des énigmes nombreuses et saugrenues qui s'entrelacent dans ton Cherokee, le vrai mystère de ce bouquin, c'est qu'il tient debout et qu'il est passionnant et drôle. On ne sait pas pourquoi. Car enfin, ce n'est qu'un ramas de déchets, comme sont tous les romans contemporains. Et Cherokee est un ramas de déchets spécialement hétéroclite et qui devrait se détruire les uns les autres. Tout ce bordel devrait être, au bout du compte, une autodestruction et un ratage. Or non, ça tient, d'une manière anti-physique. Comme un château de cartes qui serait une brique. Vous êtes d'accord avec ces images-là? Un ramas, des déchets, mais qui...
Ça, je comprends parfaitement, mais je trouve que le château de cartes qui serait une brique, je trouvais que c'était une belle idée, c'était une belle, très belle formule. Mais de toute façon, je dois beaucoup à l'écriture de Jean-Patrick Manchette, et le personnage de Fulmar est un parent d'un des personnages de Manchette, qui est Eugène Tarpon.
Bien sûr, et puis ça pourrait tout à fait correspondre à ce qu'il a dit à vie de Gérard Fulmar. C'est un roman noir, hein, quand même, on le disait. Bon,
Le projet, c'était un projet de roman noir, oui, ça, mais, assurément.
Mais en même temps, le but, c'est de désamorcer totalement le roman noir, en fait, dynamiter le cadre. Hein. Je vous cite, « Voici donc qu'après le coup de l'arme à feu, figure imposée dans ce genre d'histoire, comme l'a pertinemment fait observer Gérard Fulmar, voici qu'on va vous faire le coup de l'exotisme. » Là, c'est avant qu'on parte vers le requin. Mais à chaque fois, il s'agit de montrer les ressorts d'un genre.
Non,
qu'on va s'en affranchir.
Non, c'est pourquoi ne pas prendre la parole en commentant ce qu'on est en train de faire et rappeler qu'on vous raconte une histoire et que ce rappel fait partie de l'histoire. Ce rappel, au fond, c'est de la fiction aussi. C'est un personnage de fiction qui vous dit ben voilà, je fais de la fiction. Donc c'est une espèce de petite fiction, disons, en abîme, quoi.
Et pourquoi faire du roman noir? C'est vrai qu'on parlait de Macorlan tout à l'heure. Alors il y a ce côté noir hein, chez Macorlan. Pourquoi ça vous plaît autant, justement, le code du roman noir?
Je ne crois pas avoir fait uniquement du roman noir, mais ça me paraît un champ de liberté très grand. On peut se permettre beaucoup de choses, où on peut mettre en place des mécaniques de suspens, de rupture, de portrait, d'action. Enfin, c'est vraiment un espace très, très, très libre. Libre et réglé. Et jouer avec les règles, c'est toujours assez intéressant.
Pour rester dans le visuel, on parlait tout à l'heure du jeu hein, avec la focale, le champ, le contre-champ. Il paraît que vous alliez voir tous les matins, quand vous étiez plus jeune, un tableau de Paolo Uccello au Louvre, avec une carte de presse fictive d'ailleurs.
Oui, parce que je travaillais, je faisais des petits articles pour une revue qui distribuait des cartes de presse un peu imaginaires. Et mais ça marchait pour Pour le Louvre, ça marchait, on vous laissait entrer. Et
pourquoi ce tableau-là, vous alliez...
Pardon ?
C'était quel tableau, alors ?
C'était la bataille, je crois que c'est la bataille de San Romano de Paolo Uccello, qui est un tableau qui me fascine, enfin qui, à l'époque, je dois dire que c'était une période assez oisive, et la possibilité d'aller voir ce tableau tous les matins, j'habitais pas très loin, donc c'était un émerveillement quotidien.
Est-ce que ça fait partie aussi des scènes peut-être primitives qui vous ont donné envie de devenir écrivain ? De voir ces tableaux-là et de se dire...
Ce tableau-là, c'est possible, parce qu'il y a un enchevêtrement de décors, il y a des jambes des chevaux, il y a les regards derrière les cuirasses, les armures, il y a des effets de contraste entre le métal et les yeux des personnages. C'est une énorme fiction.
Ouais.
C'est une énorme fiction. Et c'est une beauté terrassante.
Et ça, donc... Vous vous souvenez du moment où vous avez voulu devenir écrivain ?
Oh, ça, je crois que ça remonte à l'enfance.
Ouais. Oui. Mais vous savez quand c'était ? Parce que vous faisiez des poèmes. Vous commencez par des
poèmes. Oui, mais comme tous les adolescents, ouais. J'ai dû faire quelques poèmes que j'ai retrouvés il y a quelques temps, que je me suis empressé de détruire.
Ah, de détruire ?
Oui, c'est pas la peine de.
Ah, vous avez pas donné au fond à Jacques Doucet
Non, ça, je pense que ça ne méritait pas de rester. Ouais. Non, c'était l'idée. Qu'écrire était la chose la plus intéressante, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance.
Ouais. Ouais. Vous l'aimez le mot écrivain, vous caractérisant bon, Jean Echenoz,
oui,
écrivain.
J'en ai un peu assez de dire que je l'aime pas parce que ça devient ridicule, mais c'est ce que je suis. Quoi. Ouais.
Dernière question, vous pourriez arrêter d'écrire comme l'avait décidé Philip Roth ?
Quelquefois j'y pense, mais je me rends compte que ça serait très difficile parce que comme je vous ai dit, j'ai pas du tout de discipline, mais de commencer la journée en essayant de fabriquer des histoires, de fabriquer des phrases, pour le moment, ça me paraît pas envisageable. Peut-être que ça viendra un jour.
Merci beaucoup, Jean Echenoz. On va se quitter en écoutant votre dernier choix musical. Vous avez choisi une sonate de Haydn, interprétée par Alain Planès. Pourquoi ce dernier choix ?
Parce que c'est quelque chose que j'écoute aussi souvent et je ne sais plus quel musicien me disait que quand on écoute Schubert, on se console en écoutant Haydn.
Ah, donc la boucle est bouclée.
Voilà.
Comme dans la vie de Gérard Fulmar. Merci beaucoup Jean Echenoz, c'était le temps des écrivains avec Anne-Catherine Lochard et la complicité d'Angèle Merle. Réalisation Jean-Christophe Francis, à la technique Arthur Dumont. Merci beaucoup.
Merci.
Et longue vie à Gérard Fulmar, et je m'arrête là. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter et podcaster à l'infini sur franceculture.fr. Cette émission spéciale avec Jean Echenoz, qui publie donc Vie de Gérard Fulmar aux éditions de Minuit et maintenant Haydn.